Le message d'aujourd'hui est un peu en continuité avec celui de la semaine dernière intitulé. C'est comme un mot bizarre. Tout d'un coup, ça me... J'ai douté. Ça vous arrive des fois de douter de comment vous dites un mot, me dire « Ah, c'est donc bien étrange comme mot. » Voilà, ça vient de m'arriver. Non, mon titre aujourd'hui, c'est « Pour vous qui êtes inquiets, t'as beau planifier la meilleure journée de repos possible. » Avec un moment de méditation de la parole de Dieu, une marche dans la forêt en avant-midi, un spa et un massage l'après-midi, merveilleux, un souper gastronomique en famille durant la soirée. Si dans ta tête, tu n'es pas reposé, tu n'arriveras jamais à profiter de ta journée, à décrocher, à vivre le moment présent et à réellement te reposer. Parfois, ça peut être le calme complet à l'extérieur, mais le chaos et la tempête à l'intérieur de ton esprit à cause de tes inquiétudes. Et l'inverse est vrai aussi, hein? Parfois, c'est la tempête à l'extérieur. Mais dans ton cœur, c'est la paix. Selon les sondages légers qu'on connaît ici au Québec, 68 % des jeunes Québécois de 18 à 24 ans se disent stressés dans leur vie de tous les jours. 47 % des Québécois se disent anxieux selon, ça c'est peu importe le revenu, la scolarité ou la langue, français-anglais. L'anxiété affecte aussi les jeunes ados. Peut-être que si vous êtes parent de jeunes ados, vous l'avez remarqué que c'est beaucoup plus présent que peut-être qu'avant, en fait, avec l'anxiété de performance, la comparaison sur les réseaux sociaux, à quel point c'est un fléau. Les inquiétudes affectent vraiment tout le monde et la situation mondiale actuelle, ça n'aide vraiment pas quand on pense au changement climatique, à la COVID qui a quand même eu lieu il n'y a pas si longtemps, on s'entend, aux guerres et aussi à l'inflation. Aux tendances économiques actuelles, tout ça, ça peut nous inquiéter, ça inquiète les gens. Mais j'ai une bonne solution pour nous aujourd'hui. Les experts l'affirment, il faudrait rire davantage pour vaincre le stress. OK? Donc, sans plus attendre, voici quelques blagues pour vous déstresser et vous détendre ce matin. OK? Pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l'eau salée? Personne? Non, pourquoi? Parce que l'eau poivrée les ferait éternuer, voyons donc, quand même. Pourquoi le melon a-t-il sauté dans le lac? Celle-là est accessible. Pourquoi le melon a-t-il sauté dans le lac? Pour devenir un melon d'eau. Que dit un dalmatien après le repas? Oh non, je me sens encore tachée. Oh, quand même, quand même. Et la dernière pour aujourd'hui. Que dit le requin? Le requin, c'est ma préférée. On est beaucoup dans les animaux aussi. Que dit le requin après avoir mangé le poisson clown? Ça goûte drôle. Exactement. Il y en a des petits wise ici. Mais bien que la joie fasse partie du fruit de l'esprit, heureusement, la parole de Dieu nous offre davantage d'outils que des blagues plates de mon oncle. Désolée pour vous. On s'est pratiqué à faire des blagues de papa. Il y a d'autres stratégies dans la Bible pour contrer les inquiétudes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les prochaines minutes. On pourrait croire que l'anxiété aussi et le stress sont un phénomène moderne, mais la Bible, à quel point elle en parle, nous fait réaliser que dans le fond, c'est juste une affaire d'être humain. L'être humain a tendance à s'inquiéter. Et le texte qu'on va étudier ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc au début du chapitre 12, juste après que Jésus ait eu des confrontations assez intenses avec les religieux de l'époque. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jésus va dire cette réplique que j'ai citée la semaine dernière. « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Julien, est-ce que tu vas me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Je sens que ça va venir. Et je vous lis les versets 52 à 54 du chapitre 11. C'est juste pour vous montrer un peu la tension qui commençait à y avoir entre Jésus et les religieux. Déjà, ça commence avec « Malheur à vous ». Ça part mal une conversation. On va être honnête, hein? « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. » Comme s'ils empêchaient d'entrer en relation avec Dieu. Merci beaucoup. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Et tout ça, ça va mener à la crucifixion de Jésus. L'autre chose aussi qui est intéressante dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a clairement deux types d'auditeurs. Okay? Vous porterez attention pendant la lecture. Jésus s'adresse parfois à la foule, mais la plupart du temps, il s'adresse à ses disciples. Et la foule, et ça va changer un peu la façon qu'il va s'adresser aux gens, on va le saisir dans son attitude. La foule aussi n'est pas vraiment présentée comme un personnage, on va l'appeler comme un personnage positif dans cette région où Jésus enseigne. Il va dire au chapitre 11, donc le chapitre avant, « Comme la foule s'amassait, il s'est mis à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. » Les gens s'amassaient en foule et Jésus devenait de plus en plus populaire parce que les foules voulaient voir des miracles spectaculaires sans nécessairement s'intéresser à Jésus. En fait, ils voulaient un peu ce que Jésus avait à donner, comme la guérison d'une maladie, mais sans vraiment s'intéresser nécessairement au royaume de Dieu et aux réalités spirituelles que Jésus annonçait. Donc, avec ce contexte en tête, je vais faire la lecture de Luc 12, 1 à 34. C'est un long passage, donc je ne l'ai pas mis à l'écran. Mais suivez avec moi, la version que j'utilise, c'est Second 21. C'est toujours cette version-là que j'utilise dans mes messages. Je vous encourage à apporter votre Bible. Et sinon, on peut même vous en prêter dans les prochaines semaines, si jamais on peut en mettre à votre disposition. Mais apportez votre Bible parce qu'on la lit. C'est une des grandes activités qu'on fait les dimanches. Ça aide aussi à se rappeler quand on le voit dans notre Bible directement. Vous pouvez aussi prendre votre cellulaire au besoin. Je bois une gorgée d'eau, je prie, puis après, on lit. C'est ça le plan. Prions ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur Jésus, viens par ton esprit. C'est toi qui as inspiré ces paroles. Seigneur, je viens avec foi ce matin que juste en prêchant tes paroles, Seigneur, tu parles au cœur des gens. C'est ce que tu nous dis, Seigneur. Ta parole est vivante, alors on veut l'écouter, on veut être attentif et on veut mettre en pratique ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Je te prie pour que tu puisses parler au cœur, prendre soin des cœurs, que les gens puissent réaliser leur valeur ce matin, Seigneur. Viens nous élever, viens remplir notre foi, viens booster, Seigneur, notre intelligence, notre cœur, Seigneur. Viens faire ton œuvre ce matin. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Donc, lisons ensemble Luc 12. Je vais essayer de me rappeler que vous ne l'avez pas à l'écran et de lire lentement. Chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, quand même intense, au point de s'écraser les uns sur les autres. Voyez la popularité de Jésus. Jésus se mit à dire à ses disciples. Donc, ses disciples, eux, sont proches de lui. Et là, il parle à ses disciples. Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ils viennent terminer, le chapitre 11 vient de se terminer avec leur confrontation entre les pharisiens et là, ils commencent en disant ça à ses disciples. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous l'ai dit à vous qui êtes mes amis, encore une fois il parle à ses disciples, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Il parle de Dieu le Père. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter ou craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 pièces, 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme, ici il parle de lui-même, Jésus, c'est un terme qu'il utilise pour parler de lui, se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, celui qui n'accepte pas en fait l'enseignement de Jésus, qui ne veut pas en fait devenir enfant de Dieu. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, ah, il se fait interrompre, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Il est dans le sujet, lui. Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. » Il va faire des rénovations. « J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Et ce que tu as préparé pour qui cela ira-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et là, dernière portion de la parole. Donc là, on a vu qu'il s'adressait vraiment à la foule, mais là, il revient Jésus et il dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, et Jésus termine avec ça. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Partout dans ce passage, Jésus nous commande de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur. Jésus nous dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. N'ayez donc pas peur. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous présenterez votre défense. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous tourmentez pas. N'aie pas peur, petit troupeau. Okay? Je ne vois pas d'autres synonymes vraiment. Si tu as assez clair, ne t'inquiète pas. C'est bon? C'est assez clair. Et c'est important ici aussi de comprendre que les verbes ici que Jésus utilise, la majorité, ils sont à l'impératif. Jésus ne nous donne pas un conseil, il nous dit « Ne le fais pas! » Il nous l'ordonne en fait, il nous le commande. À toi qui es inquiet, Jésus a tellement mieux à t'offrir. Il veut te donner sa joie, sa paix et te libérer de la peur et de l'anxiété, pardon, qui paralyse, qui t'empêche d'avancer, de marcher pleinement et librement dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Le texte qu'on vient de lire révèle deux inquiétudes de l'époque et qui sont aussi d'actualité pour nous aujourd'hui. Deux inquiétudes, les hommes et les biens matériels. Premièrement, Jésus enseigne aux disciples à ne pas craindre les hommes. tout le début du passage, toute la première partie, ça se réfère vraiment à la prédication et aux persécutions des chrétiens à venir après la mort et la résurrection et après le départ de Jésus vers son Père. Il dit ce que les disciples auront chuchoté à l'oreille, ben dans les pièces les plus retirées, ça va être proclamé sur les toits. Il parle de la prédication sur les terrasses. Il dit que ceux qui reconnaîtront aussi publiquement qu'ils sont des disciples de Jésus seront reconnus dans les cieux. Il annonce que les disciples vont être amenés aussi devant les autorités pour défendre la cause des chrétiens. Mais dans ce contexte-là, Jésus va dire au verset 4, « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Et au verset 11-12, il va dire, « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous devrez dire à ce moment-là. » Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce message est d'autant plus d'actualité pour nous. Premièrement, parce que nous sommes dans un monde post-chrétien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais être chrétien au Québec, c'est pas vraiment la cote. Avez-vous remarqué? Je pense que oui, hein? Et c'est pas juste au Québec, hein? Il fut un temps où l'Église était partie prenante du monde politique. Elle se trouvait derrière toutes les initiatives mondiales, les grandes explorations des continents, les grandes institutions comme l'éducation, la médecine et la science. Mais aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde post-moderne, sécularisé. Et dans ce contexte, Jésus nous dit encore, « Ne craignez pas les hommes. » Au travail ou dans ta famille, même si tu passes pour un fou ou pour quelqu'un qui a rejoint une secte, hein, true story, on s'entend que on l'entend celle-là, mais Jésus dit « Ne crains pas pour ta réputation. Ne crains pas les hommes au point de ne pas de t'empêcher de partager ta foi autour de toi. Ne crains pas. » Mais encore plus, ce passage aussi nous parle des temps de la fin. Jésus a annoncé qu'un jour, il reviendrait établir son royaume et sa justice ici sur terre. Et que la situation aussi mondiale s'empirerait. Et là, ça fait 2000 ans que Jésus a annoncé ça, donc on est plus proche du retour de Jésus qu'il était à l'époque où les disciples ont entendu ça. Les premiers chrétiens ont eux-mêmes vécu la persécution, mais Jésus dit que cette persécution aussi va s'augmenter, va aller en augmentant avant son retour. Il y a un article dans la presse qui mentionnait qu'en 2022, 360 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde. Pouvez-vous imaginer? Nous, on n'est pas dans cette réalité-là, mais c'est le cas. Et c'était le même chiffre que l'année précédente, à la différence qu'au lieu d'avoir touché 40 pays différents, ça s'est étendu jusqu'à 76 pays. Même chiffre, mais la persécution prend place dans plus de pays qu'avant. Mais encore une fois, à travers ce contexte, Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent plus rien faire. » Même si les persécutions devaient s'aggraver ici au Québec, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. La deuxième source d'inquiétude présente dans la deuxième partie du texte, ce sont les biens matériels. À partir du moment où un homme de la foule interrompt Jésus, il va se mettre à enseigner par rapport à ce sujet qui peut devenir vraiment une source de stress pour beaucoup d'entre nous. Jésus va dire au verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. » Au verset 29, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » En d'autres termes, Jésus dit à ses enfants de ne pas s'inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement et tous les besoins de base parce qu'il va prendre soin d'eux. Et dans un contexte d'inflation qui pourrait mener à une récession ou un contexte où peut-être tu as de la difficulté à répondre à tes besoins, tu as des soucis financiers ou que tu vois tes plans de retraite complètement s'effondrer, Jésus te dit « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas, je vais moi-même prendre soin de toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer dans le monde ou dans ta vie, je serai toujours avec toi et je pourvoirai à tes besoins. Et Jésus le fait, on est témoins, Julien et moi, de la provision de Dieu à travers toutes sortes de défis financiers, Dieu pourvoit. Que ce soit pour ces deux sources d'inquiétude, la crainte des hommes et le stress, quant aux ressources matérielles ou pour n'importe quelle raison, c'est pas plus compliqué que ça. Jésus nous dit « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas. Ça, Jésus a vraiment été clair. Mais peut-être que certains d'entre vous se disent « OK, ben c'est bien beau, Jésus il nous dit ça, mais si c'était si facile à faire, je le ferais. J'arrêterais de m'inquiéter. » Mais heureusement, Jésus va beaucoup plus loin. Il nous montre également pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter. Et ça, ça devrait nous aider à pas s'inquiéter, justement. C'est le fondement, c'est la base de tout ça. Non seulement comme pourquoi ne pas s'inquiéter, mais comment y arriver. Et c'est les deux prochaines questions auxquelles je veux répondre dans les prochaines minutes. Êtes-vous toujours là? Oui? Voici donc les deux raisons de ne pas s'inquiéter que Jésus ici va expliciter dans ce passage. Pourquoi on ne s'inquiète pas selon Jésus ici? Premièrement, à cause de notre valeur en Dieu. Et deuxièmement, à cause de la valeur de la vie. Dans les deux cas, Jésus va donner des exemples pour montrer que nous valons plus que les moineaux, les corbeaux, les lys, les fleurs. Et il va dire aussi que la vie vaut plus que le vêtement et la nourriture. Regardons à cette première raison pour laquelle tu ne devrais pas t'inquiéter dans ta vie. Premièrement, à cause de la valeur que tu as en Dieu. Dans ce court texte, Dieu est décrit de trois façons différentes, comme un père au verset 30, « Votre père sait que vous en avez besoin », comme un berger au verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume », et aussi comme un ami quand Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit à vous, mes amis, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps ». À quel point Dieu est plein de tendresse et de soin à l'égard de ceux qui placent leur foi en lui. Et c'est là aussi la différence d'attitude envers les foules et où Jésus, on voit qu'il parle un peu plus durement, il reprend, il dit « Voyons, j'ai d'autres choses à vous dire. » Tu sais, il ne parle pas de la même façon à eux qu'à ses disciples où là, il est un père. Parce que si Dieu est un père, nous sommes aussi des enfants, des brebis et des amis de Dieu. Et ça, c'est un statut privilégié qui est accordé à ceux qui placent leur foi en Dieu, à ceux qui deviennent enfants de Dieu. Et je veux dire à tous ceux qui n'ont jamais pris cette décision-là, c'est la meilleure et la plus importante décision que tu pourras jamais faire dans ta vie, de croire et de répondre à l'invitation de Dieu, d'entrer en relation avec lui et de chercher à faire sa volonté à travers toutes tes inquiétudes. Dieu est le seul qui peut réellement prendre soin de toi, répondre à tes besoins autant physiques, émotionnels que spirituels. Il veut te donner la vie éternelle et aussi la vie en abondance ici-bas, ici sur terre. Et la façon de le faire, elle est tellement simple. Romains 10, 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas naître de nouveau, naître une deuxième fois, cette fois-ci spirituellement. Et tu deviendras un enfant de Dieu et tu vas être dans cette famille-là, dans sa famille. Et ces privilèges-là accordés vont être accordés à toi aussi. Tu vas devenir ça va devenir pour toi ton père, ton berger, ton ami. Tu vas devenir une brebis. Un enfant de Dieu, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire « Oui, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est cette décision que j'ai prise. Amen. Amen. » Et pour donner encore plus de poids à ces paroles, Jésus va utiliser des exemples pour montrer à quel point nous avons de la valeur à ses yeux. À quel point il prend soin de ceux qu'il aime et de ceux qu'il a créés. Verset 6. « Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » C'est la raison pour laquelle on ne peut avoir peur. Parce qu'on a notre valeur en Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est dit, c'est le passage parallèle, ça nous dit que 2 moineaux sont vendus pour 1 pièce d'argent. Donc, le prix d'un moineau, c'est 2 pour 1 ou 5 pour 2. Okay? Quand on commence à faire des deals de même, là, c'est parce que ça n'a pas tant de valeur que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est bien parce que Dieu nous dit que nous valons plus que beaucoup de moineaux. Ah, mais merci Dieu, c'est rassurant. En tout cas, c'est le fun. Si t'en doutais, tu vaux plus que beaucoup de moineaux. C'est le fun à savoir quand même. Mais la clé d'interprétation ici, justement, elle n'est pas tant dans la comparaison de notre valeur avec ceux des oiseaux. C'est le fait que même les petits oiseaux qui ne valent presque rien, Dieu en prend soin. Verset 24 nous dit aussi « Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. » C'est en comparaison avec la parabole du gars qui s'est ramassé plein de choses dans ses greniers, il a travaillé fort. Eux, ils font rien, comme on dit souvent à notre chien Boris. Ils sèment pas, tu fais rien, tu fais rien. Puis lui, il est bien relax dans son lit. Là. Des fois, ça nous choque, on se dit « On aimerait bien ça aussi, avoir ton insouciance. » Puis en plus, il faut travailler pour lui pour le nourrir. Bon. Mais c'est ça ici qui se passe. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Et le troisième exemple, c'est au verset 27. Observez comment poussent les fleurs, les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles non plus, mais elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous. Et j'ai dit aussi que tantôt c'était évident qu'on valait plus que beaucoup de moineaux, mais je connais pas le passé de chaque personne, je connais pas la relation que tu as eue avec tes parents ou avec les personnes, un professeur ou quoi que ce soit, la façon dont tu as été traité par les autres ou par tes parents. Et mon cœur est brisé vraiment parce que je sais qu'il y a certains, malheureusement, certains mêmes animaux de compagnie qui sont mieux traités que certains petits-enfants dans ce monde. Mais je veux t'assurer aujourd'hui que tu as un papa dans le ciel qui t'aime et qui veut prendre soin de toi et qui trouve que tu as tellement de valeur qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Quand on accueillait les gens ce matin, on parlait du printemps avec Manon tout à l'heure. Puis le printemps s'en vient, les amis. Le printemps s'en vient. Les journées rallongent. Amen. Yes. C'est long ici dans Charlevoix. L'hiver est plus long. On le sait très bien. Courage à tous. Mais je me rappelle une année, dans les premières années où on est déménagé dans Charlevoix, durant un printemps, il y avait vraiment une quantité phénoménale. J'avais jamais vu ça, moi, qui viens de la banlieue montréalaise. Des envolées, mais c'était exceptionnel aussi pour cette année-là, je sais, parce qu'après, c'était pas si intense. Des envolées d'oiseaux pendant le printemps, pendant quelques semaines, un genre de 3 semaines. On se promenait même en voiture, puis des fois, on habite près des champs. Des fois, on risquait d'en frapper un, là. Des envolées d'oiseaux, comme ça, c'était incroyable. Il y avait vraiment une quantité phénoménal d'oiseaux lors de ce printemps, ce fameux printemps. Et si bien qu'à un moment donné, oui, il se frappait des fois aussi dans les fenêtres, là, vous savez. Des fois, on en a recueilli quelques-uns dans des couvertures, tout ça, pour après ils reprennent leur envol. Mais malheureusement, il y en a un qui est décédé. Il a perdu la vie dans la voiture stationnée, même pas en route. Puis il était rentré dans la vitre, fait que je sors dans mon stationnement, puis je vois qu'il y a un petit oiseau, tout mignon. Il était vraiment beau. Ça m'a fait de la peine. Moi, nous, Julien et moi, on aime beaucoup les oiseaux. Juste le petit oiseau, je trouvais ça triste. Il y avait une belle couleur jaune, presque fluo. Puis là, je me dis, oh, pauvre petit. T'sais, il est rentré dans la vitre, puis il est tombé. Puis je me dis, bon, mais il va falloir que je le déplace. Fait que je vais chercher des petites branches, puis là, je le ramasse, puis en me rendant justement plus loin dans l'herbe où je voulais le mettre, je le prends, puis c'était tellement minuscule, fragile, ça pesait presque rien, quelques plumes, et je me rappelle avoir été émue à ce moment-là, parce que ce verset-là m'est revenu en tête. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Dieu a pris soin de cette petite créature si légère. Il ne l'a pas oubliée. Il savait même quand son souffle s'est arrêté. Ça m'a tellement touchée de voir dans ce petit corps fragile la présence de Dieu. Wow! Quel Dieu d'amour nous avons qui prend soin de sa création. Alors imagine-toi à quel point il t'aime et il veut prendre soin de toi. Dieu prend soin des oiseaux. En plus, le texte nous dit que Il ne les oublie pas, OK, il en prend soin, il les nourrit, mais c'est dit aussi qu'il ne les oublie pas. Et dans le même passage, il connaît le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Donc, en plus de nous montrer notre valeur, Jésus veut nous dire aussi que rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Même si tu traverses une épreuve, même si tu as l'impression que Dieu est tellement éloigné de toi, c'est faux, c'est un mensonge. Il le sait, et non seulement il le sait, il est avec toi, à tes côtés. Il connaît tout de toi, même le nombre de cheveux, tu le sais même pas toi-même. Lui, il le sait. Il sait de quelle façon aussi on est fait, parce que Jésus s'est fait homme, il connaît l'expérience humaine, il sait que nous sommes un petit troupeau, fragile, anxieux, comme un petit oiseau. Ta valeur auprès de Dieu, son amour, sa connaissance illimitée devraient faire en sorte que tu ne doutes jamais que Dieu va t'oublier, t'abandonner, et devrait aussi t'empêcher d'être anxieux ou inquiet pour quoi que ce soit. Amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous ne devrions pas nous inquiéter, c'est à cause de la valeur de la vie. Dans les deux sources d'inquiétude que j'ai mentionnées au début, craindre les hommes et aussi s'inquiéter pour les biens matériels, Jésus fait le parallèle avec la vie spirituelle, avec ce qui est encore plus important, et c'est les réalités spirituelles. Voici pourquoi Jésus dit de ne pas craindre les hommes. Voici la raison pour laquelle on n'a rien à craindre. Versets 4 à 5. Je vous l'ai dit à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ici, il parle de Dieu. Alors qu'on pourrait avoir tendance à craindre ceux qui pourraient tuer le corps, comme dans les persécutions ou dans nos réputations, Dieu nous parle d'une réalité encore plus importante. Au-delà de notre corps, Dieu veut sauver aussi notre âme. Si nous plaçons notre confiance en lui, il y a une réalité spirituelle qui dépasse ce que nous pouvons observer physiquement. Et même chose au verset 8, je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. En résumé, Jésus, il dit, ici sur terre, si tu te déclares devant les hommes, voici quel impact spirituel ça va avoir pour toi. Tu pourras entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Et l'inverse est aussi vrai. Voici la réalité spirituelle associée à ça. Et Jésus va utiliser le même principe en parlant des biens matériels. Il montre la perspective spirituelle d'une réalité terrestre. Verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » C'est quand l'homme l'interrompt. Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Okay, ici, en d'autres termes, là, dans sa façon de répondre, c'est comme si Jésus disait « De quoi tu parles? Tu viens me parler d'héritage. Moi, je veux vous enseigner des réalités spirituelles plus importantes encore. Je ne suis pas là pour juger de vos affaires de même. » On voit aussi que Jésus connaissait le cœur de l'homme. Hein? Jésus, il sait exactement comment réagir avec chaque personne de la bonne façon. La personne qui est faible, qui a un cœur, qui est ouvert pour lui, il va jamais être dur avec elle. Mais la personne qui voit son cœur, qui veut en fait de l'argent, ben il va répondre de cette façon-là. Parce que lui, en fait, il dit « Dis à mon frère de me donner du cash. » OK? En d'autres termes. Fait que verset 15, il dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et même chose au verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » C'est dans cette partie aussi que Jésus va raconter la parabole de l'homme qui s'est amassé plein de biens matériels, mais qui meurt soudainement sans même pouvoir en profiter. Donc d'un côté, Jésus montre que même si cet homme était dans l'abondance, en fait, il aurait dû s'inquiéter de sa destinée spirituelle. De l'autre côté, Jésus dit à ses disciples que même s'ils n'ont rien, ils n'ont pas à s'inquiéter parce que la vie, c'est plus que le monde matériel. Jésus nous enseigne qu'il y a quelque chose au-delà des réalités terrestres et que si on se préoccupe d'abord des réalités spirituelles, nous n'avons pas à nous inquiéter parce qu'il va pourvoir à nos besoins. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais supplié mes parents pour avoir de la nourriture. Sûrement que la majorité ici d'entre vous... C'est ça, mais on y reviendra. Pourquoi? Parce que je savais qu'à chaque repas, il y aurait de la nourriture sur la table. Normalement, des bons parents vont tout faire pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. Et justement, si c'est pas le cas, ben on va dire « Ah, c'est pas des bons parents! » Mais nous, on sait qu'on a un bon papa. Imaginez Dieu pour ses enfants. Ne perds pas ton temps à t'inquiéter pour des choses auxquelles Dieu va pourvoir de toute façon. Tu peux prier pour ça, mais ne pas t'inquiéter. S'inquiéter, c'est méditer, avoir peur, avoir de l'anxiété, vivre du stress. Ne perds pas ton temps pour des choses auxquelles Dieu va pourvoir. Pour des choses que déjà Dieu a promis dans sa parole, la provision, son esprit, la paix, un avenir, l'espérance, etc., etc., etc. Ne perds pas ton temps à t'inquiéter pour des choses auxquelles Dieu va pourvoir de toute façon. Et finalement, après vous avoir présenté les deux raisons de ne pas s'inquiéter, et déjà, ça devrait nous aider à ne pas nous inquiéter, mais en plus de ça, je veux... quand même, vous exposez deux façons de ne pas s'inquiéter, okay? Deux moyens un peu plus concrets pour nous aider à réduire notre stress et notre anxiété. La première façon de ne pas s'inquiéter, c'est de craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Amen. C'est une bonne punchline, ça. Verset 5, « Je vais vous montrer qui vous devez redouter. » Il y a quelqu'un à craindre, OK? Il y a une personne à craindre et c'est Dieu. « Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. » Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La crainte de Dieu, c'est pas la peur. Ce serait contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire, avec les soins qu'il nous apporte. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de la grandeur et de la sainteté de Dieu, qui nous amène à reconnaître aussi notre petitesse, notre péché, et à chercher à vivre en conformité avec la volonté divine. Et la parabole dans le texte illustre vraiment bien cette pensée-là. Après avoir amassé tous ses biens, l'homme se dit ceci. « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Avant que vous ayez flobé tout l'argent que vous avez mis de côté pour votre retraite, ce qui est dit ici, c'est pas qu'on peut pas s'amasser des trésors, mais c'est ça la phrase, c'est « Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On peut être riche pour Dieu et avoir des biens matériels aussi. C'est pas contradictoire. Jésus dit que de placer sa confiance, c'est ça le point, c'est que placer sa confiance dans les biens matériels, c'est là. La folie, il dit... dans une autre traduction, je pense qu'il dit qu'il est fou. Un homme dépourvu de bon sens. OK? Carrément. Et ici, cet homme croyait avoir tout en son contrôle, mais en fait, il ne contrôlait pas le moment de sa mort. Donc, il n'y avait pas tout en son contrôle. Et en fait, quand on y pense bien, la majorité des choses dans le monde échappent à notre contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur les autres. Ouh, ça, c'est dur. Tu voudrais que les autres y changent, hein? Tu n'as pas le contrôle sur les autres ou qu'il y ait des autres réactions. Tu n'as pas le contrôle sur l'avenir. Tu n'as pas le contrôle sur la température, même si c'est la journée de ton mariage puis que tu pries bien fort, mais ça se peut, on sait pas. Parce que il y en a un qui prie pour qu'il... le classique, c'est que celui qui a son mariage prie pour qu'il pleuve pas, mais l'agriculteur à côté, il prie pour qu'il y ait de la pluie. Fait que à qui Dieu va répondre? Tu n'as pas le contrôle sur les changements climatiques, sur la maladie, sur les crises économiques. Le problème avec les inquiétudes, c'est que tu veux avoir le contrôle sur des choses qui sont incertaines et qui sont hors de ton contrôle. Mais en t'inquiétant à propos de ces choses-là, t'as l'impression, t'as l'illusion d'être en contrôle. Mais c'est juste faux. C'est faux. D'ailleurs, Jésus a dit, « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, au verset 25, ajouter un instant à la durée de sa vie? » Et on se rend compte même avec la science aujourd'hui que non seulement on ne peut pas ajouter un instant à notre vie, mais que le stress nous diminue notre espérance de vie. Verset 26, « Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? » Et verset 28, « Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. » Et là, il parle à ses disciples en passant et à tout le monde. Les inquiétudes sont donc un manque de foi, en fait. Un manque de confiance et de crainte de Dieu après toutes les preuves d'amour que Dieu nous a offertes en sachant qu'il prend soin des fleurs et des oiseaux. C'est incontestable que Dieu a le contrôle sur tout dans le monde, qu'il est souverain sur ta vie, sur les oiseaux et sur le monde entier. La moindre des choses, c'est de lui faire confiance. Réaliser que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Et ça, ça va t'aider à justement arrêter de t'inquiéter. Pendant que les musiciens s'avancent, on va regarder la deuxième façon de s'arrêter, de s'inquiéter. La deuxième façon de s'arrêter de s'inquiéter, c'est le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence? C'est laisser Dieu modeler tes pensées. C'est une façon de traiter les informations selon l'esprit, d'être configuré et modelé selon la pensée et le cœur de Dieu. Verset 31 nous dit « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » En d'autres termes, la seule chose pour laquelle tu devrais te préoccuper, c'est le royaume de Dieu. Et tout le reste va t'être donné en plus. Porte tes pensées, ton énergie, tes ressources sur le royaume de Dieu au lieu de t'inquiéter. C'est ce que Jésus a fait avec les exemples dans le texte. Regardez aux réalités plus grandes derrière les inquiétudes des gens. Et concrètement, quand il y a une inquiétude qui t'assaille, identifie-la pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Identifie-la. Qu'est-ce qui vient te rendre anxieux? Et remplace-la par une vérité de Dieu. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle les gens ont autant de difficultés et les chrétiens ont autant de difficultés à arrêter de s'inquiéter, c'est qu'ils s'arrêtent à la première étape peut-être, identifier l'inquiétude, mais il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire regarder aux réalités d'en haut. Par exemple, si tu stresses à propos de ton avenir, tu ne sais pas dans quelle ville est-ce que tu vas déménager, quel programme d'études choisir, identifie cette inquiétude et redis-toi ce verset, Romains 8, 28. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pour chaque inquiétude, il y a une vérité biblique ou spirituel que tu peux te dire. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, c'est voir le monde selon la perspective de Dieu à tous les niveaux. Tu dois apprendre à regarder tes inquiétudes et le reste de la vie selon la perspective de Dieu. J'aimerais qu'on regarde la prochaine photo ici. Qui croit dans cette image que l'homme, au fond, est plus grand que notre petit ami devant. Qui croit qu'il a l'air plus grand, le monsieur au fond? Clairement. Tout le monde est... Ouais. Mais on va regarder ici avec la perspective, la prochaine diapo. J'ai copié-collé, là, j'ai pas fait de subterfuge. C'est vraiment... j'ai pris la photo puis je les ai mis un à côté de l'autre. Même en regardant les deux à côté, tu te dis, ça se peut pas. Je vois encore le grand monsieur plus grand. Vous êtes d'accord? Même si tu vois les deux à côté. Donc, en fait, c'est la même chose. Ils ont la même grandeur. Mais c'est l'idée de perspective qui nous fait changer et qui nous fait voir, en fait, le monsieur plus grand là-bas. L'illusion ici à gauche, c'est ta perspective quand toutes tes inquiétudes paraissent plus grandes que la réalité. Quand tes inquiétudes paraissent comme une montagne, et je sais c'est quoi, je le comprends, ça paraît comme une montagne, les défis auxquels t'es... qui t'inquiète en fait. Toutes sortes de défis, toutes sortes d'inquiétudes, d'anxiété. Ça, c'est l'illusion. Mais par le renouvellement de l'intelligence, tu dois regarder tes inquiétudes selon la perspective de Dieu, selon les réalités spirituelles du royaume. Et je l'avais dit dans un autre passage, compare tes problèmes, compare tes défis, compare tes inquiétudes qui ont l'air tellement grands, mais compare-les à la grandeur de Dieu. Puis tu vas pouvoir dire, oh boy, OK, ça minimise pas, on l'a vu, Dieu prend soin de nous. Jésus comprend ce que tu vis, ça minimise rien de ta souffrance. Mais t'as pas à t'inquiéter, c'est vrai, c'est une réalité, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois apprendre à regarder au-delà du monde physique et regarder le monde selon la perspective de Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui nous aide à arrêter de nous inquiéter. Est-ce qu'il y en a qui veulent arrêter de s'inquiéter? Amen. Amen. Oui, on est tout assaillé par les inquiétudes. C'est l'humain, c'est l'être humain. Mais on n'est pas obligé de rester là, on n'est pas obligé de rester pris là-dedans. J'aimerais prier, levons-nous tous ensemble, j'aimerais prier pour vous. Avant d'entrer dans ce moment de louange où on va vraiment pouvoir déposer notre fardeau aux pieds de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te prier premièrement pour ceux qui n'ont pas l'impression d'avoir de valeur devant toi ou devant les autres, Seigneur, parce que soit par le passé, leur expérience, Seigneur, ils ont été brisés, ils ont été trahis, ils ont été méprisés, ils ont été blessés, Seigneur. Je veux te prier qu'à cet instant, par ton esprit, tu montres à ces personnes à quel point tu les aimes, Seigneur. C'est toi qui transformes par ton esprit, tu transformes les cœurs, les pensées, et par ton esprit, tu peux dire oui, je suis là, je suis à tes côtés, je t'aime, tu as de la valeur pour moi, Seigneur, que les cœurs, les esprits croient par la foi, Seigneur, ces paroles qui ont été prêchées, que oui, ils sont aimés, aimés comme rien dans l'univers. Aimer à la valeur de donner ton Fils, Seigneur, pour nous à la croix. Quelle valeur inestimable nous avons devant tes yeux, Seigneur. Convainc tes enfants à quel point tu les aimes. Et Seigneur, je veux te prier, deuxièmement, pour tous ceux qui vivent avec les inquiétudes, Seigneur, tu les identifies peut-être à l'instant. Viens faire émerger ces inquiétudes, mais qu'on n'en reste pas là, Seigneur, qu'on puisse entrer dans le renouvellement de l'intelligence. Viens, Seigneur, relever nos foies, qu'on puisse être vraiment par tout ce que tu nous as montré par ta parole aujourd'hui, qu'on puisse retrouver la foi, Seigneur, et dire non aux inquiétudes, Seigneur. Nous lever et dire non, moi, je ne continuerai pas dans cette voie-là, Seigneur. Je veux prier, je veux penser, je veux porter mon regard sur les réalités d'en haut, Seigneur, sur tes enseignements, sur ta parole, Seigneur. C'est ces vérités-là que je veux repasser dans ma tête et non mes inquiétudes. Seigneur, apprends-nous à regarder le monde selon ta perspective. Seigneur, que tu libères des cœurs et des esprits ce matin. Libère, Seigneur, libère, enlève le fardeau. Seigneur, tu nous as dit que tu nous apportais ton repos physique, ton repos spirituel, mais ton repos aussi émotionnel dans nos esprits. Seigneur, viens apporter ton repos. Seigneur, nous allons à toi ce matin. Nous nous approchons de toi et tu viens à notre rencontre, Seigneur. Tu nous apportes le repos, Seigneur. On vient avec foi devant toi. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.